à tous. Et voilà, on recommence une nouvelle saison. Cette fois-ci, on va commencer avec un tout nouveau, Olivier Tanvaux, qui a rejoint très récemment Sanso. Alors, eux, ils sont moins nouveaux et ils s'appellent même plus Sanso, ils s'appellent Sanso Longchamp. Donc, c'est de la nouveauté qui s'ajoute à de la nouveauté. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec David pour voir un petit peu où toutes ces nouveautés vont nous mener. Et à l'intérieur de cette nouveauté qui s'est ajoutée à la nouveauté, c'est une autre nouveauté, puisque c'est la première fois que Sanso se lance dans le non-coté, avec non pas un fonds, mais deux fonds, un FCPI, donc pour mémoire, c'est un fonds où il y a de la réduction d'impôts, et un FPCI qui est quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Et comme on n'en a toujours pas assez, Olivier Tenvaux va vous expliquer qu'à l'intérieur de cette nouveauté, il y a aussi une spécificité là qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais une particularité qui sont les seuls à faire dans ce domaine d'activité. Donc, Olivier, ce que je vous propose, c'est de vous présenter en quelques minutes et ensuite on enchaîne directement sur ces deux fonds que vous gérez.
Parfait, merci de me recevoir, Bernard. Olivier Tanvaux, donc ça fait depuis une vingtaine d'années que je travaille dans le capital investissement. J'étais auparavant directeur associé d'Alto Invest, où j'ai géré de nombreux fonds, notamment dans la défiscalisation et de nombreux fonds de placement à l'innovation. Nous étions à l'époque le leader sur le marché avec des performances extraordinaires. Et j'ai rejoint Sanso il y a 6 mois pour développer toute l'activité du private equity, du capital investissement.
Alors, ce monde-là, il est extrêmement vaste, il est presque aussi vaste, si ce n'est plus vaste que le monde du côté. Quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit que vous avez commencé par lancer deux fonds. Donc,
Oui.
juste si vous pouvez un petit peu nous les différencier et nous dire à qui s'adressent ces fonds, et ensuite on rentrera un peu plus en détail de chaque fonds.
Très bien. Donc, effectivement, nous lançons deux fonds. Un fonds de placement dans l'innovation, FCPI, qui est un produit de défiscalisation, notamment sur l'imposition sur le revenu, qui offre une incitation fiscale de 18% du montant investi. Et à côté, nous avons développé un produit pour les professionnels de l'investissement, donc un fonds professionnel de capital investissement, un FPCI, qui est également ouvert, qui a une particularité. Il ouvre une porte sur la défiscalisation, notamment sur le report fiscal, au travers du dispositif 150 zéro BTR, qui est le remploi cession. Si
Alors,
je peux
attendez,
développer.
juste, on va reprendre ce deuxième fonds, donc le FPCI. Donc, le FPCI, c'est un fonds qui ne donne pas de réduction d'impôt à l'entrée.
Non.
En revanche, qui exonère de l'impôt si on le conserve un certain temps, c'est ça?
Exactement. En fait, c'est pour principalement les dirigeants d'entreprise qui revendent leur société et qui bénéficient d'un report fiscal. Ils doivent
Là, on est sur
réinvestir.
le 150 obiter. Moi, je
De,
vous
ouais.
parle du fonds lui-même, où tout le monde peut souscrire, n'est-ce pas?
Ah, donc, alors, le fonds où tout le monde peut souscrire est un FCPI, Fonds commun placement dans l'innovation, et il offre une incitation fiscale de 18% du
D'accord.
montant total investi en direct dans des entreprises éligibles. Et nous avons la particularité, et je pense qu'on sera les seuls à le faire sur la place, à investir 95% en direct, qui offrira un avantage fiscal à ses souscripteurs, 17%.
D'accord. Et alors, le FPCI, il est 100% dédié aux 150 obiter ou vous acceptez tout le monde?
On accepte tout le monde.
D'accord. Donc, sur ce FPCI, on va séparer en deux. Vous avez les gens qui peuvent bénéficier du 150 obiter. Donc ça, ce sont les chefs d'entreprise qui ont vendu et qui vont éviter la fiscalisation directe. Mais si on s'adresse à tout un chacun, lui, il investit ses propres économies d'où qu'elles viennent. Et dans ce fonds-là, 6 ans après, à minima, il va retirer sans impôt, n'est-ce pas?
Alors, il paiera des impôts classiques, donc qui sont les charges sociales, donc la CSG-CRDS, donc qui est incompressible, mais le reste, il y a la possibilité d'avoir une exonération sur les plus-values.
D'accord, donc exonération du fiscal et on paye la CSG-CRDS.
Exactement.
D'accord. Alors maintenant, ces deux fonds ne fonctionnent pas de la même manière.
Non, les deux fonds ne fonctionnent pas de la même manière. Déjà, deux thèses d'investissement. Le FCPI, donc le fonds commun de placement dans l'innovation, comme son nom l'indique, il y a de l'innovation. C'est un fonds qui est dédié à des entreprises européennes, des PME européennes innovantes. Donc, un des critères, c'est l'innovation. L'innovation, on l'a au travers, en France, lorsqu'on investit dans des sociétés françaises, d'un label, donc le label BPI Entreprises Innovantes, où on peut également l'avoir grâce à des dépenses en recherche et développement. Il faut que les dépenses de recherche et en développement représentent au moins 10% des charges d'exploitation de la société.
D'accord. Alors, il y a eu beaucoup de critiques sur ces fonds en disant que le seul argent qui était gagné, c'est la défiscalisation, mais que le fonds lui-même ne donnait pas de rentabilité et que sans défiscalisation, on était sur des rentabilités ridicules ou sur des rentabilités extrêmement faibles. Quel est votre point de vue là-dessus et comment vous appréhendez cette difficulté?
Alors, mon point de vue, effectivement, si on reprend les chiffres du marché, ce sont des fonds qui ne donnaient pas beaucoup de rentabilité, voire beaucoup de fonds étaient en performance négative. Alors, j'ai eu la chance de collaborer, de travailler, d'être directeur associé dans une structure où nous avons été principalement dans des fonds in boni, donc hors avantage fiscal. Je n'ai jamais vraiment parlé d'avantage fiscal dans ces fonds parce que notre intérêt, c'était de générer de la performance. Et nos intérêts sont alignés au travers de carry d'intérêt, parce que les fonds portent du carry d'intérêt qui permet de rémunérer les managers du fonds. Donc, c'est la commission de surperformance. Nous, on avait une politique assez simple pour aller gagner un peu d'argent. On avait une stratégie. On investissait principalement dans des sociétés cotées sur des marchés non réglementés où il n'y avait pas forcément une grande liquidité, mais la liquidité, au moins, avait le mérite d'exister.
Alors Olivier, je vous arrête. Côté non réglementé sur un marché, quelques exemples pour qu'on comprenne bien tous.
Alors, quelques exemples. Pour qu'une société soit éligible dans un FCPI et qu'elle est cotée, il faut déjà un premier critère, c'est la capitalisation boursière. Il faut que ce soit des sociétés dont la capitalisation boursière soit inférieure à 150 millions d'euros. Il faut également qu'il y ait, comme on a dit, de l'innovation. Donc, les critères d'innovation, on les a détaillés au préalable. Et qu'elles répondent également aux critères de la PME européenne. Donc, une société, les critères de la PME européenne, c'est moins de 250 salariés, un total bilan inférieur à 43 millions d'euros et ou chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. À partir de ce moment-là, la société peut être éligible, faut-il qu'elle soit cotée sur un marché non réglementé. Des exemples de marchés non réglementés, vous en avez un qui est anciennement donc Alternext, donc qui est maintenant Euronext Growth, où il y a des valeurs qui sont éligibles au FCPI. Vous avez également le Euronext Access, qui est anciennement le marché libre, et où on a la possibilité, au travers de ce type de véhicule, d'investir un peu partout en Europe, donc dans l'Union économique européenne, ou des pays qui ont des accords avec l'Union européenne, comme notamment la Norvège ou l'Islande, on peut investir dans ces sociétés qui sont cotées sur ces marchés. Et il y a d'autres marchés non réglementés cotés dans ces pays. En Scandinavie, c'est le First North OMX, donc l'équivalent de Euronext, Euronext Growth. On a également en Allemagne l'Open Market. Et les sociétés qui sont cotées sur ces marchés et qui répondent aux différents critères qu'on a pu évoquer demeurent éligibles.
Donc, globalement, avec ces critères-là, votre fonds, c'est un fonds de micro-cap orienté croissance.
Microcap coté avec de l'innovation, orienté bien évidemment croissance. Donc c'est un produit de défiscalisation qui est assez formidable, parce qu'on peut investir finalement sur des marchés cotés avec certaines contraintes et bénéficier d'un avantage fiscal.
Est-ce qu'on est dans une innovation fondamentalement technologique, ou est-ce qu'on peut être dans une innovation moins technologique? Allez, je vais penser, en préparant l'émission, on a parlé de marchands de café, mais quand Nespresso a inventé ses capsules de café, il y avait clairement de l'innovation. Elle n'était pas technologique au sens où on l'entend aujourd'hui. Est-ce que ce type de choses aurait pu être éligible à votre?
Tout à fait. Alors, l'innovation n'est pas forcément que technologique. On peut avoir une innovation dans le service. À partir du moment où on justifie qu'il y a de l'innovation et que cette innovation représente tant de dépenses par an dans une entreprise, la société devient éligible. Donc, l'innovation, elle peut être technique, technologique, mais également dans le service. Donc, l'opportunité, on peut aller sur des éditeurs de logiciels où il y a de la technologie assez forte embarquée. On peut aller également dans des sociétés de services qui proposent donc de nouveaux services. Et ça, on en a vu énormément. Par exemple, je vais vous prendre une société qui était cotée sur le marché libre il y a fort longtemps, qui s'appelait PC30, qui est devenue Solution 30, qui est toujours listée sur les marchés. L'innovation était au départ dans le service. Ce sont des gens qui se déplaçaient à l'origine avec leur mobylette pour réparer des ordinateurs chez les clients, donc des particuliers, et ainsi de suite. Maintenant, ils se sont spécialisés dans le déploiement de la fibre optique, également dans la pose de compteurs énergétiques intelligents. Mais donc, on est vraiment dans l'innovation là dans le service. Donc il n'y a pas d'innovation technologique et cette société était potentiellement à l'époque, enfin, était éligible au FCPI.
Très bien. Et alors, si on va maintenant dans le deuxième fonds, le FPCI, celui-ci, il n'est pas géré de la même manière.
Non.
Non. Et il n'est pas géré avec la même stratégie non plus que vous venez de nous décrire.
Non plus. C'est un pur fonds non coté, où on ira dans un secteur défini, et le secteur, c'est le savoir-faire d'excellence. Le savoir-faire d'excellence qu'on retrouve, en France, ce type de société. On peut également aller dans des zones également européennes, où il y a une excellence. Et là, nous investissons, nous pouvons investir dans le domaine de l'éducation. Donc, on est dans la formation et dans la transmission de savoir-faire. Nous pouvons également investir dans des sociétés qui sont des parties prenantes, par exemple des fournisseurs de sociétés qui sont dans l'univers de l'excellence, avec des sociétés qu'on peut retrouver dans le lifestyle, dans le bien-être, des sociétés qu'on va retrouver également dans la cosmétique, dans la joaillerie, dans la couture. Donc, tous ces secteurs peuvent être couverts par ce fonds. Il n'y a pas forcément d'innovation, mais il y a un vrai savoir-faire qu'on essaye de valoriser. Et là, ce qu'on va rechercher, c'est l'incorporel. Donc, c'est l'actif incorporel, c'est la marque, ce sont les brevets, ce sont les licences où il faut capitaliser. Nous sélectionnons des sociétés qui sont encore sous les radars de grands groupes et on va jouer la consolidation. L'objectif est de générer un rendement sympathique pour satisfaire les clients.
Alors, dites, on est sympa à partir de combien?
Bah, nous, on a sur ce type de produit, alors j'ai jamais aimé faire des projections, parce que je dis toujours, c'est le rendement, c'est à la fin qu'on le calcule. Mais si on faisait un état par rapport à nos prévisions, sur ce type de fonds, on peut aller chercher un rendement net de 18-20% par an.
D'accord. En préparant l'émission, vous m'avez dit deux choses qui sont un peu des choses contraires ou contrariantes par rapport à ce que les autres intervenants sur le même secteur que vous qui viennent nous rendre visite nous disent. La première des choses que vous nous avez dit, on appelle l'argent en une seule fois et on ne l'appelle pas au fur et à mesure de nos deals. Alors, un petit peu expliqué, je vais vous demander de réexpliquer pour nos auditeurs. Donc, l'appel se fait en une fois. Donc, moi, je vois deux petites contraintes à ça, c'est que souvent, avec un appel en plusieurs fois, ça permet à un investisseur de s'organiser et de dire, voilà, je vais mettre 300 000, je sais que ces 300 000, ils me les auront appelés que dans 3 ans, j'ai 80 000 aujourd'hui, donc ça va le faire et je réorganise mon épargne. Donc ça permet de créer le chemin. Et l'autre chose aussi, alors là, techniquement, c'est que automatiquement, ça améliore le TRI. Puisqu'on appelle juste avant d'investir. Donc ça n'améliore pas le multiple, mais ça améliore le TRI. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un chemin différent et une voie différente?
Alors, c'est un très bon sujet. Alors, l'engagement ferme, aujourd'hui, il y a un intérêt. C'est qu'aujourd'hui, l'argent qui est perçu, nous le gérons. Et nous le gérons au travers de produits monétaires des produits de trésorerie qui, avec la remontée des taux, rapportent un rendement qui couvre nettement les frais de gestion. Ce qu'on appelle le capital appelé, donc à chaque fois qu'on fait un investissement, ben il faut appeler l'argent. Alors effectivement, ça peut être sympa dans l'organisation, mais pour une société de gestion, c'est assez compliqué dans la gestion des fonds parce que quand on appelle, les personnes oublient le montant qu'ils auraient pu engager initialement. Il y a toute une problématique également en interne parce qu'il y a le back-office qui doit gérer ces appels. Nous, quand nous faisons des investissements, le jour du closing, il faut que l'argent soit là. Donc de temps en temps, il peut y avoir des décalages dans le closing, tout simplement parce que l'ensemble des fonds n'ont pas été reçus. Et surtout, ça pousse les gérants, comme la rémunération, une partie de la rémunération d'une société de gestion, ce sont les frais de gestion, ça pousse certains gérants à être un peu moins sélectifs dans les investissements pour pouvoir rapidement investir et toucher le maximum de frais de gestion. Donc l'engagement ferme est beaucoup plus harmonieux sur la gestion, notamment du back-office. Cet argent peut être placé, et c'est aussi notre métier de placer l'argent. Nous avons des supports assez remarquables au sein du groupe Senso, notamment sur la gestion de trésorerie, avec des fonds obligataires. Et ça permet également aux équipes de gestion d'être beaucoup plus sélectifs dans leurs investissements, en ayant le temps d'investir et en faisant les investissements que l'on juge les meilleurs.
Très bien. Et la deuxième chose, vous m'avez parlé d'une concentration qui ressemble à une ultra-concentration. Et si j'ai bien compris, on risque d'avoir moins de 10 fonds dans le FPCI.
Alors, dans le FPCI, l'idée, c'est d'avoir entre 6 et 8 lignes. Ça reste, moi, je trouve, un ratio assez intéressant. Ça nous permet d'être sélectifs.
Juste, excusez-moi, je vous interromps. C'est unique ou c'est quelque chose de régulier? C'est quelque chose qu'on voit souvent sur le marché des FPCI.
Bah, on peut voir. Alors, c'est quelque chose qu'on peut voir communément, hein, d'avoir une concentration de lignes. Parce que les opportunités, il n'y en a pas non plus de belles opportunités, elles ne sont pas pléthores. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les belles opportunités, il y a une grosse concurrence. Donc il faut savoir aussi tirer son épingle du jeu. Et je dis toujours, c'est effectivement, on a un principe, un précepte dans la finance, c'est la gestion du risque par une diversification et par un nombre important de lignes. Mais je dis toujours, quand on a 100 lignes dans un portefeuille, il y a plus de chances d'avoir des canards boiteux que lorsqu'on est sur un portefeuille extrêmement concentré où on a pu faire notre travail avec sérieux et notamment d'avoir 6-8 lignes. On s'est dit en interne, c'était ce qu'il y avait de plus optimal dans une gestion quotidienne. Parce que la force d'un fonds, au-delà d'investir, c'est également de gérer une participation. Et plus on multiplie les lignes, moins on est regardant sur les lignes. Donc nous, on a décidé d'avoir un portefeuille extrêmement concentré avec une connaissance parfaite de nos lignes et de faire travailler également nos participations entre elles. Donc créer un écosystème autour d'une thématique.
Alors, sur ces 6 à 8 lignes, est-ce qu'il va y avoir des lignes où vous serez majoritaire? Est-ce que, ou alors est-ce qu'il y a un interdit ou est-ce que c'est possible et rien n'est encore écrit?
Alors, on peut être majoritaire. L'idée, c'est d'être minoritaire, actif, donc de prendre une part significative du capital pour exister. Et j'ai toujours, par le passé, remarqué qu'on a une position d'influence dans une entreprise à partir de 15% du capital. Donc, on prendra en général des participations minoritaires. En étant actif dans les sociétés sans être opérationnel, parce que nous ne pouvons pas faire de la gestion de fait, ce n'est pas l'objectif d'un fonds, sauf quand on est majoritaire. Et on a la possibilité, au travers d'instruments reductifs, de devenir majoritaire. Par exemple, nous pouvons rentrer dans des entreprises au travers d'actions, mais également d'obligations convertibles qui peuvent être à un moment donné converties en actions.
Et donc, c'est le même fonds qui portera l'obligation convertible. Le FCPI aura donc en son sein des actions et des obligations.
Exactement, avec une règle pour que le fonds soit éligible au dispositif 150-0 BTR, ce qui est le cas du FPCI, il faut que 75% des investissements soient en actions. Donc on a la possibilité, on peut avoir un levier de 25% en obligations convertibles.
Très bien.
Ou on peut rentrer à moins de 75% d'actions, mais à un moment donné, il faudra arriver, en tout cas, convertir une partie des obligations converties pour qu'on puisse atteindre ce niveau de 75% du fonds investi en actions.
Alors, en préparant l'émission, vous m'avez dit que ces fonds sont tout neufs. On a reçu il y a 24 ou 48 heures les dernières autorisations de l'AMF. Donc,
Oui.
je pense que la commercialisation commence maintenant, demain, après-demain, enfin, dans la semaine. Mais
Oui,
ça
allez,
débute, c'est vrai?
ouais.
Ouais. Alors, avec pour le FCPI, comme il est défiscalisant, automatiquement, la commercialisation va s'arrêter au 31-12 pour ce millésime.
Exactement.
Et donc, pour l'autre, le FPCI, on est sur une commercialisation ouverte pendant combien de temps?
Ouverte, on s'est laissé à peu près 24 mois.
À peu près 24 mois. Mais dès que les premiers flux financiers vont arriver, les premiers investissements vont se faire.
Exactement, on n'a pas de premier closing. On peut investir une fois que les premiers fonds arrivent. L'idée, on a travaillé déjà le deal flow en amont. Donc, on serait aujourd'hui, si on avait le cash, on serait opérationnel, on pourrait déjà commencer des investissements.
D'accord. Et le fonds va être automatiquement coté. La cotation, c'est tous les combien de temps?
C'est une VL, une valeur liquidative semestrielle. Et
Semestriel.
nous autorisons à un moment donné, si on voit que ça va assez vite, de stopper la commercialisation. On a une fois que les objectifs, en tout cas qu'on s'est fixés, sont atteints.
D'accord. Et vos objectifs, 15 à 20 millions d'euros, c'est ça?
Ça serait bien sur le FPCI pour commencer. Ouais, ça serait un très bon, ça serait un très bon fonds.
Parfait. Eh ben, c'est exactement ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Olivier. C'était bien dense. Voilà, c'est une rentrée en fanfare pour nos auditeurs. Et maintenant, on va passer à l'édito pour rester bien entendu avec nous et vous le commenterez. Maëlle vient de nous rejoindre. Bonsoir, Maëlle.
Bonsoir.
Alors,
Bonjour Bernard, vous
l'auditeur
allez
ne vous voit
bien?
pas, mais vous êtes tout bronzé. Donc, l'été a dû être de qualité.
Oui, on a fait en sorte que ça se passe bien, merci. Et vous?
Voilà, très très bien. Très très bien, un bel été, plein de soleil. D'ailleurs, on ne manque plus vraiment de soleil en été, on cherche plutôt les endroits où il y en a un peu moins qu'un peu plus. Allez, je commence et après ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. L'année devrait bien finir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre émission Parlons Patrimoine. Nous sommes toujours trois comme les mousquetaires et continuons d'avoir envie de vous satisfaire comme au premier jour. C'est sans doute cela l'amour. David Calfon de Sanso-Longchamp AM, Maëlle Donado de Willins et moi-même repartons pour une saison. L'inflation est redescendue au niveau choisi par la BCE de 2% et elle n'est plus un frein à la baisse des taux. Comme en même temps la croissance est molle en zone euro et que le coût de la dette est un sujet pour tous les États, même les plus vertueux, la BCE n'a plus vraiment de raison pour ne pas baisser les taux. Du fait d'un manque de croissance en Chine, il n'y a pas à craindre une hausse du prix des produits manufacturés. On est plutôt dans le déstockage à prix discount. On commence à sentir une lassitude tant au Proche-Orient qu'en Ukraine. La situation politique n'est également pas à ce jour une source de crainte pour une remontée de l'inflation. Les politiques incendiaires du quoi qu'il en coûte sont derrière nous, donc pas de flux artificiel non plus à envisager. De ces faits, un mouvement baissier des taux viendrait soutenir notre économie et il n'y aurait pas de fort décrochage à craindre dans le semestre à venir. Les perspectives d'amélioration semblent suffisamment bonnes pour qu'un retour ou renforcement des marchés actions puisse être envisagé. Pour les plus prudents qui ne souhaiteraient pas renforcer des positions risquées, je leur conseillerais de ne pas vendre et de privilégier un statut. Le dernier point, l'instabilité politique en France, cela pourrait un peu perturber la place de Paris, mais pas vraiment l'Eurostock et encore moins le Standard & Poor's 500. En résumé, on privilégie les fonds US, monde, bien sûr, les ETF sur les mêmes places et on continue notre route avec Warren Buffett et son titre Berkshire Hathaway. Quand j'ai écrit ça, 24 heures après, les marchés américains ont commencé à baisser. Et je me suis dit, est-ce que les craintes, elles remontent pas? Est-ce qu'elles remontent? Et après, je me suis dit, bon, tous les financiers, on est fait de craintes et ces perturbations 24, 48 heures. Donc, l'année devrait bien finir. J'ai envie de changer le titre et de dire, si on a une mauvaise surprise de la technologie américaine qui nous embarque tous dans une spirale baissière. Mais ce n'est pas ce thème-là que j'ai envie de développer aujourd'hui, c'est plutôt les autres thèmes macroéconomiques. Donc David, on reprend les bonnes habitudes, c'est vous qui réagissez, c'est vous qui dites ce que vous en pensez, et ensuite on va écouter nos autres invités.
Merci Bernard. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle saison. Je vois que vous commencez Bernard avec une chronique pleine d'optimisme. Et je souhaite que vous ayez raison. J'aimerais beaucoup. Maintenant, est-ce que j'en suis convaincu? Un petit peu moins. On a des messages de prudence. Alors là où je vous rejoins, c'est que très clairement, on va entamer un cycle de baisse des taux. Voilà, on l'a déjà entamé si on considère que la Banque centrale européenne a fait le premier pas avant l'été. Au Canada, ils s'en sont à la troisième baisse des taux. Donc le cycle de baisse des taux, voilà, commence. Et généralement, quand les taux baissent, c'est bon pour les actifs risqués. Donc de ce côté-là, j'ai envie de dire oui, Bernard, vous avez raison. Les taux vont baisser, donc il faut juste revenir très très fort sur les actifs risqués et profiter de la remontée des cours comme on a vu par le passé. Après, j'ai envie de dire qu'en ce moment, et j'y reviendrai un peu dans ma chronique, mais vous avez, comme le cholestérol, la bonne baisse des taux et la baisse des taux préoccupante. Voilà. Donc, et c'est là-dessus que se fait tout le débat. C'est est-ce qu'on a une baisse des taux qui accompagne un ralentissement économique et ce ralentissement, il est mesuré, etc. Et auquel cas, ça, c'est une bonne baisse des taux. La mauvaise baisse des taux, c'est la baisse des taux un peu panique où la Banque centrale se rend compte que, oulala, les indicateurs économiques ralentissent beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, et que là, il faut vraiment baisser les taux très très vite pour relancer tout ça. Et si on a le sentiment que le pilote de l'avion panique, là, ça peut faire paniquer tout l'équipage et au-delà de l'équipage, tous les passagers, et ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, c'est ma seule. J'y reviendrai dans ma chronique, mais c'est un peu le grand débat des jours qui viennent, on va dire.
Allez, Maëlle, à vous. Et surtout, Maëlle, vous ne nous dites pas, c'est pas ma partie.
Non, 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 moi j'aime bien les métaphores de David, hein. Ça faisait pas mal de métaphores, mais je suis assez aligné. Moi je trouve que votre chronique, elle est très optimiste, c'est bien, hein. Moi j'aime bien l'optimisme, mais je serais un petit peu plus sur la retenue. Je trouve pas qu'on ait beaucoup de bonnes nouvelles là, en cette reprise. La baisse des taux, certes, mais je suis un peu d'accord avec David, est-ce que c'est une baisse des taux voulue ou une baisse des taux subie? Le secteur du luxe qui vient de s'effondrer, qui quand même qui tirait le CAC 40 depuis un moment. Les mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi aux États-Unis. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui vont pas. La politique de façon générale, avec les différents conflits, est-ce qu'on va rester au même niveau? Est-ce que ça va malheureusement un peu dégénérer? Voilà, ça fait plein de mauvaises nouvelles, plein de choses qui sont en suspens. Et pour moi, je serais moins optimiste que vous. Donc, je pense pas que ça va s'effondrer. Hein, je pense pas qu'il va y avoir un gros crack d'ici la fin de l'année. Mais je pense pas qu'on va s'envoler non plus.
Vous êtes d'accord avec moi, alors l'année devrait bien se finir. Je n'ai pas dit qu'elle va finir en beauté, j'ai juste dit qu'elle va bien finir.
Ouais, je pense que ça va baisser un peu ou on va stagner, mais ça va pas monter.
Alors si ça baisse un peu, rien de grave, on a beaucoup de marge sur le Standard & Poor's, on a fait une belle progression. Bon, sur le CAC, on doit être autour de zéro, enfin entre moins et zéro, quelque chose comme ça. Donc là, si ça baisse encore un peu, ça va commencer à être une vraie année baissière. Mais le point sur lequel je voudrais rebondir, où vous et David, vous avez insisté, vous avez dit la baisse des taux, il faut qu'elle soit subie, choisie. En fin de compte, la baisse des taux qu'on va avoir aujourd'hui, elle ne fait suite uniquement qu'à la hausse des taux qui a été mise en place pour contrer l'inflation. Donc, de toute façon, c'est la conséquence normale et logique de ce qui a été fait. Et on savait très bien que quand on montait les taux, on voulait contrer l'inflation, ça allait prendre un certain temps, là c'est toujours plus dur à analyser, ça a pris un certain temps, mais en ralentissant l'économie, il a fallu attendre que le choc immobilier rentre un petit peu partout, pénètre dans l'économie tous les jours, mais ça s'est fait, on a maintenant plus vraiment d'inflation. En ralentissant la production, les matières premières ont baissé, et surtout le pétrole et l'énergie. Et donc, on est dans une logique de baisser, mais on ne peut pas maintenant dire attention les gars, c'est dangereux, parce que l'économie a ralenti, nous avons fait ralentir l'économie. Enfin, ils ont fait. On va pas se prendre pour les décideurs. Donc, ils ont fait ralentir l'économie parce que les indicateurs économiques qu'ils avaient leur disaient que c'était la bonne chose. Et ce ralentissement de l'économie, une fois qu'il se matérialise, doit faire baisser les taux pour faire repartir cette économie. Et on va demander à Olivier, sauf si vous voulez réagir tout de suite sur quelque chose, allez-y. Et après, c'est Olivier qui va nous donner son point de
Olivier,
vue
je
sur
vous
ce
laisse la
sujet
parole.
précis.
Olivier, je vous laisse la parole, juste un point. La baisse du coût du pétrole et de la demande, elle est plutôt due à la baisse d'activité en Chine.
Et elle-même est due à la hausse des taux.
Bah, si vous voulez, mais c'est l'activité économique générale chinoise qui a ralenti. Moi, je pense que c'est la demande qui a ralenti et donc c'est l'activité chinoise qui baisse. Vous voyez, j'ai travaillé pendant l'été. Hein. Maintenant, je ne dirais plus que je ne suis plus un expert. Non, mais sans blague à part, je pense que une conjonction de facteurs externes qui font qu'ils sont obligés de baisser les taux. Mais je laisse Olivier donner son avis.
Non, mais moi, je rejoins un peu la position de David. Et moi, en revanche, il y a un point qu'on va peut-être pas aborder parce que c'était peut-être pas le sujet. Au-delà des taux, ce qui m'inquiète énormément sur les marchés financiers, c'est l'utilisation de nombreux acteurs de l'intelligence artificielle dans la sélection de valeurs. Et ça m'inquiète énormément. Et on voit qu'il y a énormément de sociétés de gestion qui ont pas mal de rachats, notamment de la part d'investisseurs qui utilisent des algorithmes reposant sur de l'intelligence artificielle. Et ça crée énormément de bruit sur les marchés et des valeurs qui sont. Alors moi, je suis plutôt fondamentaliste, donc dans l'approche, et on voit des sociétés qui souffrent énormément, notamment sur le plan boursier. De ces rachats avec des news flows qui ne sont pas forcément toujours mauvais, même certaines sociétés qui vacharnent de 10-15% parce que les résultats sont en phase avec le consensus, ce qui peut paraître assez curieux. Voilà. Mais sinon, sur les taux, je rejoins parfaitement ce que disait David.
Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous développiez pourquoi ça vous disconvient l'intégration de l'intelligence artificielle dans les choix, alors qu'en réalité, depuis la création des bourses, les financiers ont toujours cherché à avoir des outils d'aide à la décision, et bien entendu,
Oui.
des outils d'aide à la décision qu'ils ont eu. Alors, moi, c'est pas vrai, mais j'ai envie de le dire en souriant. Mon grand-père, il avait une règle et un crayon et il traçait des courbes pour voir ce qui allait se passer, ou il regardait par rapport au temps ou par rapport aux jours fériés quand ça montait et ça baissait. Donc, on a toujours cherché des outils pour nous aider à un petit peu anticiper l'avenir ou un petit peu à deviner l'avenir et à savoir ce qui allait se passer, soit dans le demain proche, soit dans le demain lointain. L'intelligence artificielle, c'est qu'un autre outil. On va avoir des excès, on va avoir des choses bonnes, mais vous prenez tout de suite le parti de dire, ça m'inquiète. Et c'est ça que j'aimerais bien que vous nous expliquiez.
Bah, c'est inquiétant parce que l'intelligence artificielle, comme vous le soulignez, ça doit être un outil. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est la data. L'intelligence artificielle se nourrit de la donnée. Et la donnée, il faut vérifier la qualité de la donnée. Et la donnée n'est pas forcément toujours de qualité. Si demain on commence à mettre n'importe quoi, par exemple, ben, sur Internet, moi je peux écrire des rapports, l'intelligence artificielle va capter cette information qui n'est pas forcément vérifiée, qui n'est pas forcément de qualité, et elle va reporter tout ce que je peux dire, même si ce sont des éléments qui ne sont absolument pas vérifiés et justes. Et le risque, c'est que l'humain perdent d'une certaine façon la main, plutôt que d'analyser, de faire cette recherche comme nous on fait dans le bon côté, on est obligé de toute façon, parce qu'on est obligé d'aller rencontrer les dirigeants, d'avoir une approche terrain. On laisse très peu de place à la machine pour nous dire si c'est bon ou pas. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a pas mal de hedge qui utilisent de l'intelligence artificielle. Et lorsque tout va bien, ben, vous avez des rachats, et notamment sur des montants qui peuvent être assez importants. Vous appelez, vous arrivez à tracer le rachat d'où il vient, et vous arrivez à avoir l'interlocuteur en face, et qui vous dit, mais pourquoi vous avez sorti 50 millions de mon fonds? Et là, la personne qui est en face vous dit, non, mais nous, c'est comme ça. On est une machine, on a développé une machine derrière, et c'est elle qui nous a dit qu'il fallait sortir. Donc, il n'y a plus de rationnel. Et c'est ça ce qui est dangereux. C'est qu'on perde ce côté rationnel et on laisse l'outil prendre des décisions.
C'est un peu le sens de l'histoire parce qu'on avait déjà ça et il y a des célèbres histoires sur les marchés où comme quoi un robot a déclenché une vague d'achat ou une vague de vente où un prix est descendu. La peur de beaucoup d'investisseurs, c'est si on était un prix descend en dessous d'un certain seuil, il déclenche des ventes automatiques qui elles-mêmes fassent baisser le prix, qui déclenchent d'autres ventes automatiques par tous les fonds gérés ou co-gérés par les robots. Donc, on n'a pas vraiment quelque chose de nouveau. Et en plus, quand vous parlez de la data, nous aussi, notre intelligence, elle vient de la data. De
Bien
0
sûr.
à 25 ans, vous êtes à l'école, enfin, dans différentes écoles, et vous évoluez dans différents milieux qui vous permet d'agréger immensément de data. Dans la fin de votre parcours scolaire, on vous apprend à analyser et à vous servir de cette data. Ensuite, vous rentrez dans une entreprise et vous mélangez votre propre data, votre propre analyse à d'autres data et d'autres analyses. Donc là-dessus, l'intelligence artificielle, elle ne fait que copier notre raisonnement, à la différence que ils ont 1 milliard de fois plus de data qu'un être humain et ils calculent probablement 1 milliard de fois plus vite.
Une puissance, voilà, il faut l'avoir comme une puissance de calcul, mais il faut pas forcément prendre pour argent comptant les conclusions d'une machine utilisant l'intelligence artificielle. Et le
Là
problème, c'est
encore, l'idée, je partage votre point de vue, hein. Je partage votre point de vue, mais je trouve qu'il n'y a rien de nouveau. Je vais vous raconter une petite histoire. Ma grand-mère, qui était née en 1904, elle disait toujours quelque chose. Elle disait, c'est pas parce que tu l'as vu à la télé que c'est vrai. Donc,
Ouais, c'est vrai. Et ça, je suis d'accord. Mais il faut le rappeler alors. Le problème, c'est qu'on ne le rappelle pas assez. Ah non, mais c'est ça. Ah non, mais c'est.
c'est pas parce que ChatGPT il vous dit quelque chose que c'est vrai.
Mais ça,
Mais
je suis. Il faut. Mais ça, il faut le dire. Et on ne le dit pas suffisamment. Mais je suis complètement d'accord.
ça vaut aussi pour votre voisin brillant, tout brillant qu'il soit, tout intelligent qu'il soit, et malgré toutes les belles études qu'il a pu faire, c'est pas parce qu'il vous dit quelque chose que c'est vrai. Donc, l'intelligence artificielle, elle s'oppose, enfin plutôt, elle s'oppose pas, c'est pas vrai, mais elle doit s'additionner avec la capacité critique de l'être humain ou la capacité critique d'un groupe d'êtres humains dans une entreprise. Quand il y a des décisions qui sont collégiales. Et moi, je dirais plutôt que allons-y, n'ayons pas peur de cette intelligence artificielle. Bon, moi, j'y suis très, très favorable. Je pense même qu'on est en train de vivre, on va vivre en 10 ans ce qu'on a vécu en 100 ans avec l'invention de Gutenberg de l'imprimerie. Mais développons notre sens critique et
Mais
ne
c'est
croyons
ça. Mais,
pas tout ce qu'on nous dit.
et là, je suis complètement d'accord. Mais nous, dans notre domaine du non-coté, et je le dis toujours, c'est la réussite d'un investissement, c'est la qualité du management. Et la qualité du management, c'est l'échange qu'on peut avoir avec les dirigeants. Et ça, je pense que la machine ne peut pas encore jauger et évaluer les rencontres qu'on peut faire avec des dirigeants. Et ça, c'est du relationnel et c'est le sens humain que n'a pas la machine. Et je préfère avoir de très très bons dirigeants sur un business mauvais qu'avoir un très bon business avec des dirigeants mauvais. Et je l'ai fait, j'ai eu de la chance d'avoir les deux. Et enfin, j'ai eu la malchance d'avoir l'un et j'ai eu la chance d'avoir l'autre. Et même avec des business difficiles, quand on a des gens de qualité aux manettes, ça marche relativement bien. Et ça, je pense que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de détecter la qualité et le relationnel d'une personne. C'est la
Alors,
limite.
on a un petit peu changé, on a un petit peu dévié de mon édito,
Ah, je suis
mais
désolé, je
comme
suis désolé.
non, non, mais c'est pas grave. Mais comme il nous reste quelques minutes, David et Maël, je vais vous demander votre point de vue sur l'intelligence artificielle, donc pas sur l'intelligence artificielle en gros, mais sur l'intégration de l'intelligence artificielle donc dans vos métiers, dans vos métiers respectifs, et juste avec un prisme, c'est pour vous quelque chose qui vous excite et vous pensez que ça va changer, que ça va muter votre entreprise? C'est quelque chose qui vous fait peur et dernière question, c'est quelque chose qui a déjà été intégré ou qui est en voie d'intégration ou pour l'instant on n'y réfléchit même pas. Allez-y, David.
Alors, chez Sainte-Solonchamp, en fait, on a déjà intégré l'intelligence artificielle, mais uniquement dans des capacités d'analyse. Je vais vous expliquer exactement ce qu'on a fait. On s'est penché sur le sujet de l'analyse macroéconomique. Et l'analyse macroéconomique, comme vous le savez, il y a des centaines d'indicateurs qui sont publiés tous les jours. Et donc, au bout d'un moment, on a du mal à avoir une vision d'ensemble. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris justement tous ces indicateurs et selon s'ils sortent positifs ou négatifs, on leur donne une couleur. De vert quand c'est très positif à rouge foncé quand c'est très négatif. Donc vous mettez tout ça et vous avez une superbe petite image qui ressemble à de l'art abstrait, hein, c'est toutes les teintes de vert et de rouge différents. Une fois que vous avez ça, et l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle est capable instantanément, quasi instantanément, de faire de la reconnaissance d'image et de l'analyse de proximité. Et donc, en fait, comme on a fait ce petit tableau de couleurs, ce petit carré de couleurs qu'on appelle la météo des marchés, on l'a historisé dans le temps et on l'a reproduit dans le temps. Donc, on a maintenant une vingtaine d'années d'historique de météo des marchés. Vous mettez la météo du jour et en un clin d'œil, la machine vous dit, ah, ça ressemble à tel moment. Alors, il y a des fois où ça ne vous dit rien. Mais imaginez qu'un jour, on dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble à l'été 2007. Bon, bah, peut-être qu'on va se poser des questions. Je ne dis pas qu'on va se fonder à 100% sur cet outil-là, mais cet outil va nous permettre de nous faire nous interroger et on va se poser des questions. Alors déjà, c'est un petit peu une... J'aime bien parce que c'est une prime un peu aux vétérans, hein, puisque ça veut dire, ah, tiens, ça ressemble à mai 2012. Et là, on voit qui autour de la table se souvient de mai 2012. Alors, on s'en souvient très bien, c'était juste avant le Whatever It Takes de Draghi, etc. Donc, avant une période de remontée massive des actifs risqués. Mais voilà, donc ça, nous voilà la manière dont on utilise l'intelligence artificielle. On commence à l'utiliser également, pardon, pour nous faire des résumés de documents volumineux. Donc, ça marche. Très bien. Voilà. Maintenant, est-ce que j'irai demander à l'intelligence artificielle de me construire un portefeuille? On n'en est pas là du tout. Voilà. Donc, pour le moment, l'intelligence artificielle, c'est un assistant de gestion. C'est une petite main qui nous fait gagner du temps, qui nous fait aller vite, qui nous fait nous interroger, qui nous fait poser des questions. Mais on l'a pas encore créé, on n'a pas encore promu au rôle de gérant de portefeuille. Et pour le moment, voilà, on en est à ce stade-là chez SanSolongeschamps pour le moment.
D'accord. Alors, on dit, bon, peut-être autrement, on va trop dépasser. Vous lui voyez un avenir fantastique, François, ou pas sûr?
En tant qu'assistant de gestion, ah oui, on a plein de choses à lui faire faire.
D'accord. À vous, Maël, alors, l'intelligence artificielle.
Bah, tous les trois, vous avez défini, vous l'avez bien défini, je trouve. C'est vraiment un outil. Nous, on s'en sert déjà un petit peu et on est en train de développer d'autres outils pour s'en servir encore plus. Par exemple, pour reconnaître quelqu'un à distance, on utilise l'intelligence artificielle qui compare 80 000 points de son visage avec un document d'identité pour être sûr que ce soit bien la bonne personne. On est en train de développer un outil qui permet d'aller piocher dans tous les documents pour l'origine des fonds, les actes de succession, les cessions de société, etc. Qui soit capable d'aller piocher dans tous ces documents et nous produire un résumé, ce qui nous ferait gagner un temps considérable pour justifier l'origine des fonds. C'est ce genre d'utilisation-là que l'on voit actuellement. Et c'est vrai que c'est un gain de temps extraordinaire. Puis quand je fais un discours et que je dois parler en cinq langues, moi je suis pas capable, donc j'utilise l'intelligence artificielle pour me préparer ça en cinq langues.
Ok, super. Et vous lui voyez un avenir fantastique chez Walid?
Alors, je pense que ça va être un vrai assistant. Ça ne sera jamais le preneur de décision. Ça, je suis assez d'accord avec ces messieurs. Par contre, je pense que ça va devenir un vrai assistant. En fait, c'est un outil qui nous fait gagner du temps, clairement. Ça nous évite d'aller faire les recherches par nous-mêmes. Et donc, du coup, ça va devenir de plus en plus un outil qui va nous permettre de gagner du temps. Puis, ça ne sera jamais un outil de prise de décision, j'espère.
Allez, pour clôturer mon édito, je vais vous poser une question à tous. Je vais noter les réponses. Donc, j'ai dit l'année devrait bien finir. À votre avis, au 31-12, les marchés financiers les plus importants, donc bon, pour nous, le CAC, mais allez, on va dire l'Eurostock, le Standard & Poor's, ces marchés-là, on est au-dessus, égal ou en dessous à aujourd'hui? Olivier?
Oh bah c'est très compliqué, c'est
C'est
pas.
très compliqué, mais répondez en deux mots.
Non, mais c'est,
Suivant le
mais tout,
souffle ou
ouais,
égal?
mais tout dépend parce que tout a été dit. La baisse des taux peut rendre effectivement
Non,
les.
mais Olivier, je ne vous demande pas des
Oui,
explications.
non, mais je
Qu'est-ce
sais
que vous
bien, non, mais
pensez au
c'est.
31 août?
Non, bah,
Alors,
je vais faire la
c'est
réponse
vrai
que
que
reste quand même.
Olivier, il faut reconnaître, Olivier, que ce n'est pas votre métier de prévoir les marchés à 3 mois.
Ouais,
Mais.
exactement. Bon, allez, non, mais bon, allez, je vais me lancer. Je vais dire une certaine stabilité. On va arriver
Allez, Olivier, je note stable.
stable. Voilà.
David.
Alors, supérieur à aujourd'hui, mais inférieur au plus haut de l'année.
C'est pas mal.
Supérieur à aujourd'hui, ça me suffit. Inférieur au plus haut de l'année, ce n'était pas la question. Emmaël,
J'avais dit comme David, je reste fidèle à ses
supérieur à
propos.
aujourd'hui.
Supérieur ou égal à aujourd'hui, mais inférieur au plus haut de l'année, ça c'est
Ce
sûr.
n'est pas la question. Supérieur à aujourd'hui, d'accord. Et moi, bon, vous avez bien compris qu'avec mon édito, pour moi, ce sera supérieur à aujourd'hui aussi. Voilà. Bon, ben, c'est noté, c'est bien gravé. L'édito est fini. C'est maintenant à vous, David, pour votre point marché. Et on vous écoute.
Écoutez, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique des marchés. Des marchés qui ont été bien nerveux ces derniers jours. Alors, en préambule, hein, on peut rappeler que les marchés ont tendance à être monomaniaques et à ne regarder qu'un chiffre ou qu'un indicateur à la fois. Alors, on a passé de nombreux mois concentrés sur l'inflation, ou plutôt sur la rapidité avec laquelle l'inflation reculait. Et puis cet été, le focus a basculé, tout a changé. Maintenant, on ne regarde plus que le marché de l'emploi. C'est Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, qui a donné le ton lors de son discours de rentrée à Jackson Hole, en indiquant que la Fed ne verrait pas d'un bon œil un ralentissement supplémentaire du marché de l'emploi américain. Ce marché de l'emploi, il est important, car c'est l'indicateur avancé du ralentissement économique. Encore une fois, ce ralentissement économique, tout le monde le voulait, hein, il est nécessaire car c'est lui qui permet de faire baisser l'inflation. Mais sur les marchés financiers, les ralentissements économiques, on les aime un peu comme dans les contes de fées, ni trop fort, ni pas assez fort. Hein, c'est un peu comme la soupe de boucle d'or et les trois ours. Hein. C'est le scénario idéal des marchés, c'est celui d'un ralentissement en douceur, le fameux soft landing. Le scénario redouté, c'est celui d'un atterrissage brutal de l'activité, le hard landing. Alors, le seul problème, hein, vous l'avez compris, c'est que tout le monde souhaite le soft landing, mais historiquement, il se trouve que les atterrissages en douceur sont rares et beaucoup moins fréquents qu'une récession dure. Et c'est toutes ces inquiétudes, en plus, surgissent alors que les valorisations des marchés restent plutôt riche, sans être anormal. Hein. On est à S&P 500 qui se paye 20 fois les bénéfices, les actions européennes se payent à peu près 13 fois les bénéfices. Sur les marchés des obligations d'entreprise, pareil, la rémunération du risque de défaut est plutôt faible. Si on se reporte un petit peu aux performances depuis le début de l'année, on peut faire un rappel, le S&P 500 est à plus 14%, ce qui est déjà pas mal hein, par rapport au rendement moyen historique des marchés actions. L'Eurostoxx 50 est à plus 7%. Là aussi, c'est assez en ligne avec une année moyenne de performance sur les marchés actions. Les actions japonaises sont à plus 11 et effectivement, le CAC 40 est à zéro, un petit peu l'anomalie de l'année. Alors, on a des marchés qui font preuve d'une certaine nervosité, comme je vous le disais. J'en veux pour témoin des signaux de prudence qui sont envoyés. Et le principal signal de prudence, c'est la remise en cause du leadership des grands secteurs qui ont tiré ces marchés ces 2 dernières années. Donc, je nomme la tech américaine et le luxe européen. On a effectivement donc les Magnificent Seven, donc ces fameuses 7 valeurs technologiques américaines sur lesquelles toute la performance de l'année 2023 a été extrêmement et anormalement concentrée, qui sont en baisse très significative. Quant au luxe européen, pareil, on a une chute qui est quand même assez forte maintenant par rapport au plus haut de l'année. Et on commence à parler de surperformance de secteurs dont on n'avait pas entendu parler depuis longtemps. Regardez le secteur des télécoms, le secteur des services aux collectivités, le secteur de la santé. Tout ça sont des secteurs qui tiennent très très bien par rapport au marché, aux indices globaux. Alors, ce changement de leadership, il est très intéressant. C'est une mauvaise nouvelle pour la gestion passive, puisque la gestion passive, elle reproduit les indices. Or, les indices, ils sont composés pour leur plus grande partie donc des leaders d'hier. Hein, ce sont les capitalisations qui ont le plus gros poids, ce sont les titres qui ont bien marché ces derniers mois. Et dans cette rotation, on se retrouve avec un élargissement du marché, c'est-à-dire que tout d'un coup, les gérants commencent à regarder d'autres valeurs que la tech et le luxe. Et du coup, ça pourrait être une bonne nouvelle pour la gestion active. Si on regarde cet été, les performances de la gestion active cet été ont plutôt été bonnes en relatif à la gestion passive. Est-ce la fin de la sous-performance des gérants actifs? Écoutez, voilà, sans savoir à l'avance si les marchés vont monter ou baisser, en tous les cas, on peut déjà s'interroger sur ce retour de la gestion active que moi, je pense assez probable pour les mois à venir. Et c'est là-dessus que je souhaite ouvrir le débat plutôt que sur la direction des marchés, puisqu'on a déjà abordé ce sujet avec vous, Bernard.
Alors juste, je vais vous demander pour nos auditeurs de bien qualifier, de bien expliquer ce que c'est la gestion active.
Alors, la gestion active, c'est un portefeuille qui est composé selon les convictions d'un gérant de portefeuille et non pas selon la composition d'un indice de référence. Donc, un indice, c'est le CAC 40, par exemple. Ça, c'est un indice de référence. Un ETF sur le CAC 40, il va acheter les 40 valeurs du CAC et les pondérer exactement de la même manière que dans l'indice CAC 40, alors qu'un gérant actif, c'est un gérant qui va avoir, imaginons qu'il ait comme marché de référence les actions françaises de la même manière, mais au lieu d'avoir 40 valeurs, il va peut-être en avoir 60, ou au contraire, il va en avoir 25, et dans des pondérations que lui jugera intéressantes en fonction des perspectives de gains sur chacun des titres qu'il va avoir en portefeuille, sans se préoccuper de savoir si il faut avoir du Total en portefeuille parce que Total représente une grosse partie de l'indice, ou est-ce qu'il faut avoir du LVMH en portefeuille parce que le LVMH représente une grosse partie de l'indice. Voilà, donc c'est le grand débat.
Eh bien, pour tout vous dire, moi, je me fais beaucoup de soucis pour la gestion active action. Voilà. Et alors, ça fait très longtemps que je m'en fais, mais de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les flux sur les ETF, donc les flux qui répliquent les marchés, sont de plus en plus nombreux, captent de plus en plus de fonds et vont finir par faire, enfin, ma crainte, ils pourraient finir par faire la loi de facto juste du fait des montants qu'ils ont. Et après, ma foi, quand vous avez un fonds qui va avoir quelques centaines de millions, quelques milliards, s'il est face à des centaines de milliards, il ne fera pas le poids. En préparant l'émission avec Olivier, il me disait, c'est inquiétant de voir ces sociétés qui dévissent de 15% alors que les résultats sont en ligne. Tout à l'heure, il nous a dit, c'est inquiétant de voir cette intelligence artificielle qui arrive. Mais si demain, vous avez ou de l'intelligence artificielle ou du momentum ou des graphes et tout qui engagent des achats, ça monte. Et si ça engage des ventes, ça baisse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a très, très peur de chaque fois une petite nouvelle bonne ou mauvaise, parce qu'elle va engager des réactions, elle va engager des réactions en chaîne. Donc l'idée que je me suis en train de me dire, c'est doit-on vraiment continuer à se battre contre ce qui pourrait être le sens de l'histoire? Puisque les ETF et les trackers, je ne sais pas, mais je pense que ça a entre 30 et 40 ans. On a dû commencer à créer ça il y a 40 ans. Ça a dû vraiment exister il y a 30 ans. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Et les 10 dernières années, on doit avoir un effet de masse et d'accélération. Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt avoir des systèmes de gestion actifs en se disant, voilà, je prends, alors là, je parle un peu comme un gestionnaire de patrimoine, donc pas comme un gestionnaire de fonds, mais pour le patrimoine des clients, donc pour le patrimoine de tout un chacun, ou même pour le patrimoine des entreprises, de dire, voilà, j'ai une base qui est le marché. Donc ma base, c'est le marché. Je suis sur le Standard & Poor's, c'est ma base. Ensuite, je n'ai plus un ensemble de valeurs, mais j'ai deux, trois valeurs d'extrême conviction très forte qui accompagnent ça. Et c'est là-dessus que je me développe. Voilà. Et c'est là-dessus que je me développe. Moi, pour rien vous cacher, pour mes clients sur le marché américain, on n'a plus que. Donc, on a du stock qui a été acheté il y a longtemps, mais aujourd'hui, tout ce qu'on achète, ce sont ou des ETF ou du Berkshire Hathaway, qui lui, pour l'instant, montre qu'il est toujours en capacité de le battre. Et comme il a beaucoup de cash, on se dit que si jamais ça baisse, lui, il aura du cash que le Standard & Poor's n'a pas et pourra faire des choses. Mais voilà. Donc, gestion active, j'en suis inquiet. Je suis inquiet pour la gestion active et je me demande si on va pas, si elle va pas petit à petit disparaître. Alors, petit à petit disparaître, ça veut dire que ça peut mettre 30 ou 40 ans. Mais si proportionnellement à la gestion, elle ne va pas petit à petit se réduire, sauf à ce que quelque chose pour lequel je plaide depuis plusieurs années, c'est que, entre guillemets, les gérants actifs fassent leur révolution et inventent quelque chose de nouveau, mélangeant toutes ces nouveautés, donc les indices, l'intelligence artificielle, ce que eux qualifient d'actifs, donc leur capacité à réagir, leur capacité à voir, leur capacité à pas s'inquiéter et à dire attendez les gars, ça va baisser pendant 5 jours, mais ça remonte, même si vous avez la trouille, on connaît la musique, on a notre météo, on sait ce que ça fait et tout. Voilà. Et je pense qu'on est, si la gestion active veut s'ouvrir, veut survivre, elle doit se réinventer. Donc voilà, voilà vraiment ce que je pense sur la gestion active. Pour survivre, elle devra se réinventer ou elle ne survivra pas. Et là, on a un grand blanc. Un grand blanc.
C'est un énorme challenge. Non, non, là où effectivement je suis d'accord avec vous, Bernard, c'est que la montée en puissance des ETF est problématique pour l'allocation du capital, c'est-à-dire que le financement des entreprises. Il ne faut pas oublier, les marchés financiers, c'est là pour. On finance des entreprises. Hein, c'est une source de financement pour les actions, pour les sociétés. Et. Ce que vous avez, c'est ce que fait un ETF, c'est que l'ETF ne va pas s'inquiéter, se préoccuper d'acheter des choses chères ou pas chères. S'en fiche d'acheter des business qui sont bons ou mauvais. C'est pas leur sujet. Ils vont répliquer des poids qui leur sont donnés par un indice de référence. Ça veut dire que vous allez avoir les acheteurs d'ETF, donc c'est achètent des actifs sans se préoccuper des valorisations. Et ça c'est un vrai, vrai sujet. Alors, ça peut être inquiétant parce qu'effectivement, on peut se retrouver avec une dérive, on peut avoir tout d'un coup des titres qui s'envolent en valorisation sans que personne comprenne vraiment très bien. Hein, on peut se dire, tiens, ce titre-là, on est en train de payer 80 fois les résultats. Pourquoi 80 fois? C'est énorme, c'est dingue. Et pourtant, le titre continue de monter. Bon, OK. Donc, ça pose des questions. Et de l'autre côté, les titres qui ne sont pas dans l'indice ou qui représentent des petites capitalisations de l'indice vont se retrouver avec des multiples dérisoires. On va se retrouver avec des titres qui se payent 5 fois, 6 fois les bénéfices. Ça, c'est ce qui arrive notamment sur le marché des small caps actuellement, des small caps cotés en bourse. On se retrouve avec des multiples qui sont dingues. Alors, on peut, un, s'inquiéter en disant c'est très grave parce que si on a des investisseurs irrationnels dans le marché, puisque l'ETF n'est pas un investisseur rationnel, hein, l'ETF est un investisseur systématique. De l'autre côté, on peut avoir également, se dire que ça crée des opportunités et qu'au bout d'un moment, ces valeurs pas chères, il y a bien quelqu'un qui se réveille, ne serait-ce qu'un acteur industriel. Et on a vu le cas récemment où des petites sociétés étaient retirées de la cote. En disant, bah, en fait, ça se paye 5 fois les bénéfices, je le rachète parce qu'en fait, la vraie valeur, c'est plutôt 10 fois les bénéfices. Et donc, en opérant la société de manière industrielle, je vais doubler sa valeur et je la revendrai sur le marché des actifs non cotés à des multiples bien, bien, bien plus élevés. Donc, effectivement.
David, je vous interromps parce que vous avez dit quelque chose qui est peut-être une des solutions. Est-ce que l'avenir du gérant actif n'est pas dans le non coté?
C'est possible, c'est possible. Ou en tous les cas, une certaine flexibilité de passer de d'un marché à l'autre. C'est peut-être ça, puisque on voit bien que les acheteurs industriels, donc quand il s'agit, quand vous avez un entrepreneur ou une société qui rachète une autre société, les multiples, ils sont normaux. Hein, c'est-à-dire, ils sont bien raisonnés. Généralement, il y a un sens. Quand on paye un peu cher, c'est qu'on voit qu'il y a plein de synergies derrière. Quand on ne paye pas très cher, c'est qu'on pense qu'il va falloir restructurer et subir des coûts, etc. Mais ce sont des choses qui... Il n'y a pas d'aberration. Les aberrations, on les voit sur les marchés cotés. Soit avec des titres qui se payent à des multiples extrêmement élevés, alors que qui ne sont plus justifiés par des perspectives de croissance, et d'un autre côté, des sociétés qui sont totalement délaissées et qui se payent à des multiples extrêmement faibles, alors que pourtant leur business tourne bien.
Mais sur un marché coté, une société délaissée qui se paye à un montant faible, ça peut durer 10 ans.
Ah oui, tout à fait. Oui, ah oui, ça c'est là aussi. Je pense que le retour à la patience va être quelque chose qui va être important. C'est que sur les marchés financiers, on est très habitué à l'immédiateté et on a tout de suite envie de faire quelque chose qui va faire plus 30 demain, etc. Bien, peut-être que l'avenir, c'est pas de faire plus 30 demain, mais c'est peut-être de faire x4 ou x5 en 5-6 ans.
On va demander à Olivier, qui a fait la gentillesse de rester avec nous, qu'est-ce qu'il pense juste sur ce point-là. Est-ce que l'avenir de la gestion active, c'est le nom de côté?
Ben, je dirais le non-coté n'est pas l'avenir. Ça fait partie d'une classe d'actifs qui perdurera et qui est très difficilement, qui n'est pas forcément sujette aux problématiques du côté où il n'y a pas de volatilité, pour ainsi dire. En revanche, il faut faire très attention parce que ce qui s'est passé ces dernières années dans le non-coté, il y a eu une manne financière assez importante parce que l'argent valait quasiment zéro. C'était vraiment free lunch. Donc il y a énormément de fonds qui se sont constitués. Et avec beaucoup d'opportunités, le nombre de sociétés ne se multiplie pas autant que l'argent qui est censé y être investi. Donc ce qui se passe, c'est qu'il m'est arrivé par le passé de renoncer à des investissements, tout simplement parce qu'il y a énormément de concurrence et les prix flambent, c'est-à-dire qu'on rentre sur on travaille beaucoup, nous, sur des valorisations sur les multiples, soit de chiffre d'affaires, soit d'EBIT, et sur des niveaux qui étaient relativement élevés. Et la plus-value, on l'a fait à la sortie, mais on l'a fait surtout à l'entrée. Et on a vu beaucoup de sociétés, en tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de fonds d'investissement surpayer des valeurs. Et je pense que ces millésimes-là seront assez compliqués. En revanche, ce qui est très important, et dans le long côté, c'est que l'information, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher, parce qu'il n'y a pas de sociétés qui sont couvertes par des analystes et des brokers. Mais je ferai aussi un parallèle, et c'est très intéressant ce que disait David, parce que je pense que là où il y a énormément d'opportunités et il y a véritablement un jeu à faire sur le côté, c'est sur les micro-caps et sur les small-caps, où il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas couvertes, qui laissent énormément d'opportunités, où il y a beaucoup d'anomalies de marché. Et ça, il faut aller les chercher parce que le marché se consolide. Et en général, ce sont des sociétés qui font l'objet d'OPA. Moi, j'ai eu le cas de nombreuses sociétés par le passé dans mes portefeuilles qui se font racheter par des gros industriels hein, qui, eux, y voient un intérêt parce que ce sont des sociétés qui ne sont pas forcément valorisées à leur juste valeur et qui font donc l'objet de rachats avec des primes assez sympathiques.
Allez, je vais vous interrompre. Je vais vous interrompre. On va passer à Maël pour qu'on ait le temps. Donc Maël, vous en pensez quoi ça? Donc on va revenir à la genèse de la question parce que comme on dévie un petit peu, qu'on aime tous parler, on oublie. Donc la genèse de la question, c'est la gestion active.
Je dirais que c'était la mode il y a quelques années, la gestion active. Ça a pas mal souffert ces derniers temps, je suis d'accord avec vous, Bernard. Mais je pense que demain, il y en aura moins, mais il y en aura toujours. Puisque moi, je vois des clients qui cherchent des vrais gérants avec des convictions, qui vont faire vraiment du stock picking, qui vont choisir les actions et qui vont bien les connaître. Donc, pas de la gestion indicielle où on va investir large. C'est des gérants vraiment qui ont une plus-value par rapport à une gestion globale. D'ailleurs, les gros clients, les grosses familles, leur family office, ils ont plusieurs gérants. Ils ont des gérants qui font de la gestion, je dirais, en se basant sur des indices, et ils veulent toujours un ou deux gérants, vraiment avec une expertise, qui font de la gestion active. Donc,
Alors,
je vois, je vois.
là c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous avez en tête un petit peu la proportion? C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont mettre 80% sur un indice et ensuite 20% avec des gérants, ou est-ce qu'ils vont mettre 20% sur un indice et ensuite 80% avec des gérants?
Bah, c'est difficile à dire parce que j'ai pas toute la fortune chez moi. Et donc, ils ont d'autres actifs avec d'autres gestions par ailleurs. Mais vous donner un pourcentage, c'est un peu compliqué. Je dirais 30% en gestion active encore aujourd'hui.
D'accord.
Facilement.
Et ça veut
Sachant
dire,
que j'exclus le non-coté. Le non-coté, pour moi, c'est pas la gestion active. Il y a une poche dédiée au non-coté dans le contrat.
Ouais. Et alors, ma deuxième question, c'était justement le non-coté. La saison dernière, tout au long des émissions, on a vu que c'était quelque chose qui se développait de plus en plus et qui était de plus en plus demandé, donc avec du non-coté en obligation, avec du non-coté, bien sûr, en action, du private equity à intégrer dans le contrat d'assurance vie. Est-ce que ça continue à progresser avec toujours plus de nouvelles demandes, toujours plus de nouveaux produits? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se stabilise et qui arrive à un plateau?
Ouais, je suis d'accord, ça se stabilise, on arrive à un plateau. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que je suis assez d'accord avec l'analyse d'Olivier. Il y a 2 ans, il y a une pléthore de nouveaux fonds qui se sont créés, de sociétés dont on n'avait jamais entendu parler et qui ont bien collecté au final. On les voit plus du tout, ces sociétés, donc elles ont dû faire un millésime et on les reverra peut-être plus. Aujourd'hui, on se concentre sur un nombre plus limité de sociétés qui ont une vraie expertise. Encore une fois, hein, les cibles à acheter, il y en a pas, ça court pas les rues, quoi. Donc, à un moment, ça devenait un peu déraisonnable. Donc, la demande est toujours la même, mais sur un nombre de fonds plus limité. Donc, je référençais pas mal de fonds il y a 2 ans. Aujourd'hui, les fonds pour lesquels on m'interroge, souvent, on les a déjà vus passer. Mais par contre, il y a toujours une demande assez importante pour le non-coté.
D'accord. Et dans les nouvelles souscriptions, puisque avec les problèmes français, les problèmes politiques français et les craintes après les élections, bon, on a vu dans la presse, vous nous l'aviez confirmé aussi quand vous étiez venu avant l'été, qu'il y avait des fortes augmentations de souscriptions au Luxembourg. Donc avec ce nouvel argent qui arrive, vous sentez une inflexion sur le côté non-coté ou ça reste à peu près comme avant et ça ne bouge pas?
Non, parce qu'en fait, les clients, ils vont trouver les mêmes conseillers. Et c'est des conseillers qui, aujourd'hui, c'est plus un phénomène de mode. Hein, c'est un peu ce que je dis pour le Luxembourg. Il y a 10 ans, 15 ans, c'était un peu un phénomène de mode. Hein, on allait au Luxembourg quand il y avait une crainte. Aujourd'hui, le Luxembourg, ça fait partie des mœurs. Hein, tout le monde propose des contrats luxembourgeois. Le non-coté, c'est un peu pareil. À un moment, c'est de s'adresser à une clientèle très fortunée qui voulait diversifier et qui était prête à immobiliser une somme pendant un certain temps. Ça s'est quand même bien démocratisé, le non-coté. Aujourd'hui, ça fait partie d'une allocation standard, le non-coté. On en voit quasiment presque dans tous les contrats. Hein, je grossis un peu le trait, mais on en voit quasiment dans tous les contrats. Donc, ces clients qui ont eu peur et qui se sont mobilisés pour aller notamment au Luxembourg, ils ont les mêmes conseillers que la clientèle classique qui fait du contrat luxembourgeois. Et donc, dans leur allocation, on a également du non-coté.
Très bien. Alors, une dernière question avant de revenir à David, même si on va en reparler tout à l'heure avec Julien. Quid de cette compagnie d'assurance qui a fait faillite à Luxembourg? Donc, FWU.
Ouais, alors, elle n'a pas fait faillite, hein. Elle a été gelée par le régulateur, c'est un peu différent. C'est un peu la preuve que ça fonctionne bien. Le régulateur l'a gelée, lui a donné un mois pour se recapitaliser. Elle n'a pas pu se recapitaliser. Et donc, le régulateur a bloqué les sommes pour pas que tout le monde rachète et que la compagnie elle soit insolvable. Aujourd'hui, c'est son actionnaire allemand qui bénéficie d'un délai. Mais le triangle de sécurité va fonctionner, vraisemblablement. Et donc, tout le monde récupérera. Au moins, c'est bien investi. Les actifs liquides, pour le coup, c'est dans le bilan de la compagnie. Si demain, elle disparaît, ça sera perdu. Mais comme la grande proportion des contrats, plus de 95% des contrats sont investis, les clients devraient pouvoir récupérer leurs investissements. Ça, c'est un vrai plus du Luxembourg. Hein. On a une banque aussi qui a perdu son agrément cet été,
Laquelle?
la banque Havilland,
D'accord.
donc qui a perdu son agrément. Et on a un peu la même problématique. C'est le régulateur qui a fait sauter son agrément, donc qui a gelé son agrément. Et du coup, tout ce qui est investi, les clients vont pouvoir les récupérer. Là, on est dans la phase où ça va bientôt être mis en application. Il fallait attendre qu'un administrateur soit nommé. Donc, ça y est, ils ont été nommés, les 2 administrateurs. Et donc, ils vont pouvoir opérer maintenant le transfert des actifs. Donc, c'est encore une fois, je trouve que c'est une belle publicité pour la sécurité luxembourgeoise, puisque je prends toujours l'exemple des banques. Hein, je ne suis pas méchant avec les banques. Aujourd'hui, on a une compagnie d'assurance et on a une banque en même temps. Qui ont souffert et qui ont perdu leur agrément. Hein. Encore une fois, ce n'est pas une faillite, ils ont perdu leur agrément. Et le régulateur fait ce qu'il a écrit, hein. Il a appliqué ce qu'il avait écrit dans le texte de loi et on va pouvoir assurer tous nos clients existants.
Bah, on verra dans quelques mois si vraiment tout le monde récupère ses sous et si vraiment tout le monde récupère tous ses sous. Et on aura en tout cas face à nous un bel exemple de ce triangle de sécurité. Et on va voir s'il est efficace jusqu'au bout. Donc, je répète juste une dernière chose avant de revenir à David. Le bémol que vous avez mis, c'est quelque chose que je dis toujours à mes clients. Vous le répétez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense qu'il faut cesser de le répéter. N'est pas couvert par le triangle de sécurité le cash qu'il y a dans les contrats d'assurance vie. Donc, les contrats d'assurance vie avec du gros cash en attente d'eux, c'est dangereux. Alors, bon, c'est vrai que dans une compagnie aussi solide et sérieuse que Willins, avoir 500 000 euros en attente d'un investissement dans 15 jours, 3 semaines, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Mais autrement, surtout maintenant qu'il y a de la rémunération sur les instruments court terme, faites attention au cash et surtout au cash qui traîne parce qu'on finit par l'oublier.
Et je suis d'accord avec vous, hein, je conclurai là-dessus si vous me le permettez. Qu'est-ce qui a fait défaut finalement? C'est le ratio de solvabilité. La compagnie d'assurance n'avait pas assez de fonds propres pour couvrir ses engagements. Et c'est dans ce cadre-là que le régulateur a gelé la compagnie. C'est très important de regarder finalement la solidité des compagnies d'assurance. Ça, c'est un exercice qu'on fait beaucoup en France. Hein, depuis, j'ai travaillé en France pendant des années. Ce qui différenciait une compagnie d'une autre, c'était souvent le ratio de solvabilité. On le faisait moins au Luxembourg et pour autant, c'est tout aussi important.
Alors, ratio de solvabilité de Wellings, et ça sera le
Notre
dernier.
actionnaire a plus de groupe foyer à plus de 300%, ce qui fait de nous l'assureur le plus solide d'Europe.
Bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Allez, David, alors, on vous laisse revenir un petit peu et faire peut-être une conclusion de tout le gérant actif, un petit peu de tous les avis que vous avez eus, même si là encore, on s'est un petit peu diversifié, on est parti vers d'autres horizons. Mais essayez de reprendre tout ça et de faire cette conclusion parce que le sujet est extrêmement intéressant. Bon, je pense que c'est un sujet extrêmement prenant pour une société de gestion. C'est-à-dire que une société de gestion, c'est le travail, c'est de gérer. Et quand elle voit autant de gestion passive venir de combiner, donc juste si vous pouvez nous faire un focus sur comment vous voyez l'avenir et peut-être. Est-il possible de créer quelque chose un petit peu comme nous faisons les gestionnaires de patrimoine qui mélangerait du passif, de l'actif, du côté, du non-côté, d'avoir un petit peu quelque chose comme ça qui pourrait donner chaussure à son pied à tout le
Voilà.
monde?
Alors pour ça, malheureusement, il faudrait que notre régulateur et nos régulateurs favoris nous aident un peu. Malheureusement, les régulateurs, ils aiment bien les choses pures. Donc, ils aiment bien que d'un côté, il n'y ait que du côté, de l'autre côté, il n'y ait que du non-côté, et que quand on achète l'un, on sait que c'est l'un, et quand on achète l'autre, on sait que c'est l'autre. Voilà, je ne reviendrai pas sur les problèmes qu'ont eu certaines sociétés de gestion qui, dans des fonds liquides, ont acheté des actifs illiquides. On sait que ça ne plaît pas du tout, du tout, du tout aux régulateurs et quand ça se passe mal, encore moins aux porteurs de parts. Enfin, donc ça, c'était le premier point sur ce que l'on peut faire au niveau de la gestion hybride. Moi, ce que je retiendrai, c'est que les ETF, c'est bien dans des marchés de momentum. C'est-à-dire quand vous avez un marché qui va toujours dans la même direction, un ETF, c'est parfait, puisque ça investit le marché qui va toujours dans la même direction. Ça veut dire que les titres qui montent aujourd'hui, ce sont ceux qui montaient hier, et l'ETF pondère fortement les titres qui ont monté hier. Donc, dans ce cadre-là, un marché de momentum, c'est bien. Dans les phases de retournement de marché, et je me dis que là, en ce moment, on est probablement dans une phase de retournement de marché. Alors, pas de retournement directionnel, mais on est en train de passer d'un monde où les taux étaient élevés et on va passer d'un monde où les taux sont élevés à un monde où les taux baissent. Et donc ça, c'est une rotation, hein, c'est un changement. Et dans ces périodes de changement, je pense qu'il vaut mieux faire confiance à un gérant actif qu'à un ETF qui va rester pondéré avec les gagnants d'hier. Et là, pour le coup, dans ces environnements de changement, le gagnant d'hier n'est pas toujours le gagnant de demain.
Eh bien, c'est sur ces bons mots que nous allons nous quitter. Merci à tous d'avoir
Merci.
été avec nous pour cette première émission. Elle a été très dense, elle va être très intéressante. Je rappelle aux auditeurs que vous avez des replays et vous pouvez écouter après l'émission en direct, vous pouvez écouter morceau par morceau ce qui vous intéresse le plus et ça permet d'écouter, de réécouter. On est toujours à votre disposition pour répondre aux questions directement à la radio ou sur mon mail qui est sur le site de la radio. Merci à tous, au revoir et à très
Merci.
bientôt. Au revoir.
Merci
Bientôt.
Thomas. Merci, au revoir.